Alors, la fois passée, nous avons parlé de sophonie et nous avions déjà donné la première partie de ce livre. Nous allons d'abord alors prier, confier ça entre les mains de Dieu et nous allons avancer avec la deuxième partie aujourd'hui. Prions. Notre Dieu, notre Père, tu es merveilleux. Merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es un Dieu qui nous étonne. Qui sommes-nous pour pouvoir faire l'objet de ton attention? Alors que nous étions en pleine rébellion, Christ est mort à la croix pour nous. Qui sommes-nous pour avoir tant de valeur à tes yeux? Seigneur, cet amour que tu as manifesté dans nos vies et à travers la croix, à travers l'œuvre de la croix, Seigneur, c'est un amour qui nous a tellement touchés. Que nous voulons nous aussi en retour, Seigneur, t'aimer aussi. Par-dessus tout, t'aimer et te connaître. C'est pour ça que nous aimons ta parole, parce que ta parole, c'est la vérité. C'est ce que tu dis, Seigneur, c'est ce qui vient de toi. Et nous voulons apprendre de ta parole, afin que cette parole nous rapproche de toi, nous fasse connaître encore en profondeur qui tu es, nous fasse pénétrer dans ton intimité, nous fasse saisir ta façon de voir la vie, et par le Saint-Esprit nous toucher et nous transformer profondément afin que nous soyons cet homme, cette femme que tu veux pour ton œuvre, cet enfant que tu chéris profondément. Ouvre encore nos yeux aujourd'hui afin que nous contemplons les merveilles de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. La fois passée, nous avions abordé donc la première partie du prophète Sophonie, le livre de Sophonie, et nous avons dit deux, trois petites choses d'emblée. Je vais juste courtement résumer tout ce qu'on avait dit. Publicité non commerciale. Nous avons un site, www.epo.be, Église protestante évangélique d'Otigny.be. Eh bien, nous avons les sermons sur ce site-là. Allez, jetez un coup d'œil. Si vous voulez rattraper ce qui n'a pas été encore saisi, pourquoi pas aller sur ce site et écouter le message peut-être précédent. Merci à Richard pour ce travail que tu fais à côté de tes multiples autres occupations. Que Dieu te bénisse. Sophonie est de la lignée royale, comme on l'a dit. C'est un cousin du roi Josias. C'est rare d'avoir quand même un prophète du niveau royal, c'est rare. Mais voilà, ce gars, c'est un type de la lignée royale, je dirais donc, c'est le prince des prophètes. Enfin bon, c'est ma façon de parler, c'est pas tout à fait juste. Josias régnait sur le royaume de Juda au 7e siècle. Il a régné entre 611 et 640, pardon, faut prendre ça à l'envers, hein. 640 et 611, 610 par là. Et Josias, c'est un roi qui a cette particularité d'être un homme qui a très rapidement suivi chercher Dieu. Il arrive au pouvoir à l'âge de 8 ans. Et tout doucement, il se met à vraiment faire une quête personnelle de Dieu. Il commence à chercher Dieu, mais personnellement. Connaître ce qui est ce Dieu de mes pères, que l'on m'a enseigné, qui est ce Dieu dont le sacrificateur, parce qu'il avait la régence, sa régence à lui en tant qu'enfant était à la fois soutenue par le sacrificateur, un sacrificateur qui s'occupait donc de lui pour pouvoir l'enseigner un peu les choses, et puis il y avait les différentes personnes des rangs royaux qui apprenaient un peu le métier de roi. Et il est vraiment attiré par Dieu. À l'âge de 8 ans, il commence à s'intéresser à Dieu. Et cette quête de Dieu le rapproche de plus en plus, de sorte que à l'âge de 16 ans, il se met à se dire, mais il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser Judas empêtrer complètement dans l'idolâtrie. Ces gens qui connaissent Yahweh ne peuvent pas s'empêtrer dans d'autres adorations, des autres divinités. À l'époque, il y avait plusieurs divinités, notamment trois grandes divinités. Il y avait Moloch, il y avait Baal, il y avait Astarté, qui étaient des grosses divinités qui régnaient en Israël à l'époque. Et il dit non, on va quand même commencer à faire la réforme. Et donc, première dimension de sa réforme, il commence par faire enlever tous les éléments qui symbolisent la foi dans ces divinités-là. Tous les poteaux, les symboles, etc. Il interdit les vêtements, etc. Il commence à s'attaquer au temple, à faire fermer des temples, etc. pour que les gens se tournent vers Dieu. Et puis, là, il a 16 ans. À 21 ans, là, il prend vraiment une grosse décision parce que alors qu'il fait ouvrir le temple pour qu'on puisse remettre le temple à jour, il découvre le livre de la loi, il découvre la Torah. Et là, il le lit, c'est quelque chose qui le bouleverse encore profondément, et il le fait lire au peuple d'Israël, et le peuple se rend compte à quel point ils avaient péché contre Dieu. Malheureusement, tout ce mouvement, cet effort de réforme et de retour vers Dieu, de réveil à Dieu, c'est un mouvement qui est quand même faible, parce que le peuple est allé trop loin dans l'idolâtrie. Beaucoup trop profondément, malheureusement. L'idolâtrie, mes amis, c'est comme quelque chose, comme un bonbon. Vous le prenez, c'est très bon. Vous le consommez de plus en plus, c'est très bon. Juste qu'il y a un petit problème. Plus on le consomme, d'abord il y a les caries. Ça fait mal aux dents. Et puis ensuite, il y a d'autres bizarreries, puisque le corps va accumuler des conservateurs et d'autres saletés qui finissent par faire du tort au corps. L'idolâtrie, c'est ça. On croit s'approcher d'une divinité intéressante, mais on se rend compte qu'à la longue, elle nous détruit. Elle est là pour nous faire du tort. Aujourd'hui, l'idolâtrie, ce n'est plus tellement les statuettes, les divinités, les dieux, les déesses. L'idolâtrie, aujourd'hui, c'est notre vie, c'est notre argent, c'est notre travail, c'est notre confort, c'est notre démocratie, c'est notre sécurité, c'est notre boulot, c'est notre femme, c'est notre mari, c'est notre enfant, c'est notre petite vie. L'idolâtrie aujourd'hui, c'est cela. Tout ce qui enlève Dieu dans sa position de Dieu et le met dans une position de quelque chose d'autre. Je viens dimanche, mais je viens parce que, voyez-vous, j'en ai l'habitude. Ça fait 40 ans que je vais tous les dimanches à l'église. Si je me réveille pas le matin, que je vais pas à l'église, j'ai comme qui dirait l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque. Alors voilà pourquoi je viens à l'église. Mais Dieu, quand je dois acheter ma voiture, c'est pas Dieu qui doit décider à ma place, hein. Et quand je dois décider de l'école de mes enfants, c'est pas Dieu qui doit décider, hein. Quand je dois décider avec qui je vais me marier, c'est pas Dieu, hein. Voyez, c'est comme ça que nous fonctionnons, nous les chrétiens. Or, faux. Tous les choix de ma vie, même les plus bêtes choix, je dois impliquer Dieu. Dieu doit pouvoir en être le premier intéressé. Le premier sollicité est celui de qui j'attends un signe pour dire ok ou pas ok. Comprenez? L'idolâtrie aujourd'hui, elle est là dans notre société. Elle est là au cœur des chrétiens. Ouvrons les yeux. Demandons à Dieu cette grâce. Je reviens à mon histoire, parce que c'est un peu l'histoire qu'on va faire aujourd'hui. Sophonie est un homme qui est vraiment, qui connaît bien sa société. Il vit dans cette société, comme il est de rang royal, il fréquente les grands de cette société, il fréquente la société tout entière, il la connaît. Et c'est pour ça que, si vous voyez toute la première partie, nous avons énormément montré à quel point il connaissait toutes les différentes compositions de la société, les différentes personnes, etc. Mais il connaît aussi les lieux où se trouvent les différents endroits où les commerces, leur rue neuve, si on parle de Bruxelles. Ici, c'est quoi? C'est le Douer, hein. Voilà. Si on parle de Douer, il connaît leur Douer à eux. Il connaît les différents endroits où il y a des petits trafics, des petits trucs qui se font, qui ne sont pas toujours nets, où vous savez, quand on va, on entend seulement, les flics! Tout le monde se cache, etc. Il connaît tout ça. Et tout cela montre à quel point c'est un homme qui est bien placé pour parler de la part du Seigneur. Nous avons dit que le mot clé pour cette première partie, c'était le jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Un jour imminent, un jour terrible. Un jour que Judas peut éviter. Si Judas se répand, il peut éviter. Pourquoi est-ce que Dieu lance ce jugement à travers ce mot-clé de « jour de l'Éternel » ? Parce que Judas a excité la jalousie de Dieu. Comment ? Judas est adultère. Judas est idolâtre. Vous savez c'est quoi l'adultère ? Vous me regardez l'air de dire « non, on ne sait pas ce que c'est ». Alors, vous comprenez, le mari ou la femme qui a été victime de cet acte d'adultère, il ne peut qu'être fâché. Et vous voyez, quand vous regardez dans Sophonie, au verset 8, là, il le dit, hein. Donc ça c'est la première partie. Au jour du sacrifice éternel, je châtirai les princes des rois et ceux qui, non pardon, excusez-moi. Je suis pas dans le bon. C'est le 18. Ni leur argent, ni leur or ne pourront les délivrer au jour de la fureur de l'Éternel par le feu de sa jalousie. Tout le pays sera consumé. Judas a suscité la jalousie du Seigneur parce que Judas était adultère. Adultère pourquoi ? Parce que Judas est allé fricoter avec d'autres divinités. En mélangeant et Dieu et les autres divinités. Vous voyez, à l'époque, il y avait une grosse confusion dans la tête de beaucoup d'habitants de Judas. Ils commençaient à la fois, ils avaient d'un côté l'adoration, le culte de l'Éternel, et de l'autre côté, ils allaient encore faire hommage aux divinités païennes, aux divinités que Dieu condamnait. Adultère. Idolâtre, parce qu'il y en avait beaucoup aussi qui, eux, carrément, avaient tourné le dos à Dieu pour se consacrer à ces autres divinités. Jour de l'Éternel, jour où sa colère sera terrible. Et nous avons vu que le jugement de Dieu a une portée universelle, parce que Dieu est un Dieu de justice. Un Dieu qui ne laisse pas le mal se faire et qui ne tolère pas le mal qui se développe sans qu'il puisse régler le problème. Mais nous avons découvert un visage à la fois d'un Dieu de justice, mais aussi un Dieu de grâce qui veut le salut du pécheur. Disons maintenant, donc pour la deuxième partie, nous allons prendre le chapitre 2 à partir du verset 4. Jusqu'au chapitre 3, verset 7. Car Gaza sera délaissée, Ascalon sera réduite en désert, Asdod sera chassée en plein midi, et Kron sera déracinée. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi, Canaan, pays des Philistins. Je te détruirai, tu n'auras plus d'habitants. Les côtes de la mer seront des pâturages, des demeures pour les bergers et des parcs pour les troupeaux. Ces côtes seront pour le reste de la maison de Judas. C'est là qu'ils paîtront. Ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, ne les oubliera pas. Il ramènera leurs captifs. J'ai attendu les injures de Moab, les outrages des enfants d'Ammon, qui, quand ils insultaient mon peuple et s'élevaient avec arrogance contre ses frontières. C'est pourquoi je suis vivant, dit l'Éternel des armées, Dieu d'Israël. Moab sera comme Sodome et les enfants d'Ammon comme Gomorre. Le lieu couvert de ronces, une mine de sel, un désert pour toujours. Le reste de mon peuple les pillera. Cela leur arrivera. Ah oui, c'est vrai que nous avons. J'ai lu dans ma version à moi, donc peut-être que vous trouvez des petites différences. Non, ça va, tout va bien? Ok, bon, c'est très très bien. Donc le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation les possédera, verset 10. Cela leur arrivera par leur orgueil, parce que, pardon, cela leur arrivera pour leur orgueil, parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. L'Éternel sera terrible contre eux, car il supprimera tous les dieux de la terre, et chacun l'adorera dans son pays, dans toutes les îles des nations. Vous aussi, Éthiopiens, vous serez frappés par mon épée. Il étendra sa main sur le septentrion, il détruira la Syrie, et il fera de Ninive une solitude, une terre aride comme le désert. Des troupeaux se coucheront au milieu d'elle, des animaux toute espèce. Le pélican et le hérisson habiteront parmi les chapiteaux de ses colonnes. Des cris retentiront aux fenêtres. La dévastation sera sur le seuil, car les lambris de cèdre seront arrachés. Voilà donc cette ville joyeuse qui s'assied avec assurance et qui dit en son cœur, « Moi, et rien que moi, et quoi ? Elle est en ruine. C'est un repère pour les bêtes. Tous ceux qui passeront près d'elle siffleront et agiteront la main. » Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point d'égard à la correction, elle ne se confie pas à l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs, au milieu d'elle, sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui regardent, qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires et infidèles. Ses sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. J'ai exterminé des nations. Leurs tours sont détruites. J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins tu voulais me craindre. Avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite. Tous les châtiments dont je t'ai menacé n'arriveront pas, mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Deuxième partie, Sophonie poursuit les jugements, les déclarations de Dieu. Cette fois, les jugements de Dieu s'adressent aux autres nations. Et nous allons procéder de cette façon-là pour pouvoir en parler. Donc, on va d'abord voir les nations environnantes, puis les nations un peu plus lointaines. Et dans les nations environnantes, on a vraiment Canaan, et puis on a les autres peuples, qui sont les peuples très très proches, donc des Sémites, comme les habitants de Juda, mais qui sont vraiment farouchement opposés à eux. Dans les nations environnantes, Dieu va d'abord pointer du doigt les Philistins. Il promet leur destruction. Et il le promet à travers les villes. Vous avez vu ici, il parle de Gaza, il parle de Asdod, il parle de Ekron. Il y a Ascalon que tu n'as pas cité là. Plus haut peut-être. Ah oui, voilà. Il y a Gaza, Ascalon, Asdod, Ekron. Ce sont des villes philistines. Et il y a une cinquième qui n'est pas là, qui s'appelle la ville de Gath. Alors, la ville de Gath, on clarifie tout de suite, si on n'en parle pas là, c'est parce que probablement elle a été rasée, elle a disparu, elle n'existait plus à ce moment-là. Mais les quatre autres villes cananéennes, donc de Philistins, existaient bien. Et ces quatre villes sont vouées à la destruction. Vous savez quoi? Dieu n'annonce pas les choses par hasard. Quand Dieu s'adresse ici aux Philistins, les Philistins savent de quoi il s'agit. C'est une menace qu'ils prennent très au sérieux, parce qu'ils connaissent la puissance de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette histoire qu'on raconte dans 1 Samuel au chapitre 5, je pense. Les Philistins font la guerre. C'était à l'époque où Samuel est juge en Israël. Les Philistins font la guerre contre Israël et durant la guerre, c'est la débandade pour les Israélites qui ne tiennent pas devant l'armée des Philistins et les Philistins en profitent pour se saisir de l'arche de Dieu, en se disant, c'est ça qui fait leur force.
Eh bien, on le prend en avant, on part avec comme ça, on les affaiblit pour toujours. C'est le désespoir chez les Israélites. Ils se disent, ça y est, c'est fini. La présence de notre Dieu ne sera plus glorieuse. On ne saura plus être aussi un grand peuple comme cela. Et voilà que les Philistins emmènent victorieusement, la bataille a eu lieu dans une ville qui s'appelle Ebenezer, ils l'emmènent justement où? Dans leur ville de Asdod. Eh bien, là-bas, ils le mettent dans le temple du dieu Dagon. Vous savez, c'est des gens qui croyaient à cette divinité, le dieu Dagon. Le nom de Dagon vous dit quelque chose parce que c'est un peu en rapport avec l'histoire de Samson. Bon, ferme la parenthèse. Et donc, Dagon, voilà que on met le coffre de l'Alliance, l'arche de l'Alliance, à côté de cette divinité, Dagon, et on le laisse là, et puis ils s'en vont en disant « Ouais !» On a gagné, voilà, on le met là-bas. Lui n'a qu'à respecter cette arche n'a qu'à respecter la gloire de Dieu. Le lendemain matin, ils reviennent, ils trouvent le dieu Dagon par terre, face contre terre, devant l'arche de Dieu. Bon, ça va, c'est un accident, ça arrive. Hein. Ils resoulèvent leur dieu, ils le remettent correctement, en se disant bon, allez. C'est un accident, quoi. Ils le remettent là. Et puis, le lendemain encore, ils reviennent. Cette fois, non seulement le dieu Dagon est par terre, mais toutes les parties sont coupées. Là, les Philistins commencent à se dire, il y a un stut. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et, tout doucement, il y a une série de malheurs qui commencent à leur arriver. Beaucoup de problèmes commencent à leur arriver. Qu'est-ce qu'ils font, les malins? Eh bien, ils se disent, si nous, Asdodiens, nous avons des problèmes à cause de cette histoire-là, on va l'emmener ailleurs. Ils l'emmènent dans la ville de Gath, deuxième ville philistine. Et là, on le dépose là-bas. Et voilà-t-il pas que c'est au tour maintenant des habitants de Gath d'avoir plein de problèmes. Des maladies, des lèpres, trucs. Alors là, ils se disent, c'est la cause de ça, c'est cette arche ici. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent ça vers Israël. Et c'est comme ça qu'Israël va danser de joie. Ouais, on a retrouvé notre coffre, nous avons notre... Voilà. Mais, encore une parenthèse, évidemment, quand eux-mêmes, les Juifs, vont avoir ça, il y aura quelques petits malheurs, bien sûr. Je ne vais pas entrer dans les détails. Tous ceux qui vont toucher à ça vont tomber malades, vont mourir, etc. C'est quelque chose de sacré. C'est vraiment quelque chose de la présence de Dieu. Et donc, les Philistins connaissent Dieu. Ils connaissent sa puissance. Donc ici, quand le prophète est en train d'envoyer des jugements, de leur dire le jugement de Dieu, ils tremblent. Ils savent que, ça va chauffer pour nous. Ça va chauffer pour nous. Ensuite, nous avons l'autre population, deux autres nations environnantes qui sont là aussi, à qui Dieu promet la destruction. Ce sont les Ammonites et les Moabites. C'est le verset 8, je pense. Voilà. J'ai entendu les injures de Moab et les outrages de mon père et les outrages des enfants d'Ammon. Vous savez, pour la petite histoire, Ammon et Moab et Ammon, c'est des peuples qui sont directement cousins, frères des Israélites, puisque c'est des descendants, ils sont descendants ensemble via Lot. Mais ils sont devenus très hostiles avec les Juifs et les combattent par tous les moyens. Mais Dieu promet un sort pour eux, ils vont être comme Sodome et comme Gomorre. C'est-à-dire, ils vont être détruits par le feu. Le lieu restera un lieu désertique, un lieu où il n'y aura plus rien à chercher. Remarquez ce que Dieu dit là, et on reviendra sur ça. Le reste de mon peuple les pillera, le reste de ma nation. Pourquoi est-ce que Dieu est en colère? Ah oui, pardon. Avant, peut-être, on va voir, il y a aussi les autres peuples. Donc, on a les nations voisines, avoisinantes, mais il y a des nations plus lointaines, qui sont beaucoup plus puissantes. Eh bien, ces nations-là aussi, Dieu aussi les menace. Au verset 11 et 12. Donc, nous avons là aussi des menaces, à la fois contre les Éthiopiens, mais aussi contre la Syrie, notamment la ville de Ninive. Alors, la question, si vous lisez ce texte, et vous connaissez un peu l'histoire, vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que Dieu menace l'Éthiopie, alors que l'Éthiopie n'est pas impliquée à cette époque-là dans le conflit avec Juda? Pourquoi? Eh bien, ça c'est ma petite recherche qui m'a amené à la réponse, à savoir que simplement, l'Éthiopie s'est, dans le passé, attaquée à Juda, et même s'ils ont été vaincus, il reste quand même un danger potentiel pour Juda. Mais la Syrie, c'est normal. Hein? La Syrie, c'est la puissance qui domine. À ce moment-là, ils font le siège de Juda, ils accordent à Juda une certaine liberté, une certaine autonomie, mais c'est la Syrie qui domine à ce moment-là le pays de Juda. Et donc, c'est normal que là, Dieu menace. Et il menace à partir de ce qui fait leur fierté, c'est-à-dire la ville de Ninive. Pourquoi est-ce que Dieu est en colère contre toutes ces nations? Pourquoi Dieu agit-il de la sorte à l'égard de ces nations? Eh bien, nous avons les réponses à ça. Vous avez vu, n'est-ce pas, quand on remonte plus haut, on remonte les versets au verset, voilà. Alors, vous voyez, Dieu dit pourquoi il est en colère. Verset 8. À cause des injures, à cause des outrages. Et ces injures et ces outrages, Dieu les considère, c'est les injures des autres peuples, des autres nations contre Israël, mais Dieu les considère comme c'était à lui qu'on le faisait. Dieu ne supporte pas cela. Il ne supporte pas cette arrogance que les autres peuples manifestent à l'égard de Juda. Il n'accepte pas ça. Parce que Dieu est le protecteur de son peuple. Dieu est le Père. Il veut se réserver à lui seul le droit de châtier quand il le faut. Personne d'autre ne peut le faire. Personne d'autre doit le faire. Verset 10. Pourquoi est-ce que ce peuple est occupé à manifester tant d'insultes et d'outrages? C'est parce qu'ils sont orgueilleux. C'est pour leur orgueil. C'est l'orgueil qui les pousse à agir de la sorte à l'égard du peuple d'Israël, le peuple de Juda. Et donc, à cause de cela, Dieu va les punir. Dieu va les châtier. Dieu va envoyer, dans le contexte ici, Dieu va leur envoyer une puissance militaire. Ce sont les Babyloniens. Ce sont les nouveaux Babyloniens. Les anciens ont été détruits. Le royaume d'Assyrie s'est élevé. Il est devenu puissant. Il a commencé à régner partout. Et puis tout doucement, la Babylonie a commencé à se reconstituer. C'est Babylone qui va alors attaquer toute cette région et va détruire Jérusalem plus tard. Et c'est comme ça que le peuple d'Israël va s'engager la partie de Juda va aller en captivité. Parce que déjà, le royaume du Nord n'existe plus. Il a déjà été détruit par les Assyriens et la population a déjà été emportés en Assyrie et ils ont fait des mélanges avec des autres populations du côté en tout cas du royaume du Nord. Mais Juda était encore resté. Mais Juda malheureusement va connaître ce sort-là. Dieu chérit son peuple. Il en est le protecteur. Mais Dieu ne veut pas que son peuple se comporte de n'importe quelle manière. Regardez le jugement maintenant sur Jérusalem. Dieu, à partir du chapitre 3, Dieu va maintenant aussi, va aussi exprimer un jugement contre Jérusalem. Dieu lui reproche d'être une ville désobéissante, d'être une ville ingrate, d'être une ville qui n'accepte pas de se laisser conduire par Dieu. Il lui reproche son manque de sagesse. Alors que c'est Dieu qui est son Dieu, cette ville croit en ses propres ressources personnelles. Dieu lui reproche cela.
Dieu reproche aux responsables de la ville
d'être des hommes malhonnêtes. Vous voyez, verset 3, les chefs civils, ceux qui sont dans l'administration civile, sont comme des lions rugissants. C'est-à-dire, ils exercent le pouvoir par la violence, par l'arbitraire. Ces juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Non seulement ils sont violents, mais ils sont des prédateurs. Ils s'enrichissent sur le dos du peuple. Et verset 4, c'est les responsables religieux. Eh bien, ils sont infidèles. Téméraires, ça dit qu'ils osent dire des choses que Dieu n'a même pas dit qu'ils disent. Ils sont profanateurs. Les mots sont durs. Profanateurs. Violeurs de la loi. Et ce qui est encore étonnant dans le cœur de Dieu, verset 5, mais Dieu est là. Il est au milieu d'eux. Et pourtant, ils n'ont aucun respect de ça. Aucune considération pour ça. Dieu est là avec eux, mais ils n'ont aucun respect. Comme je vous l'ai dit, le mot clé de cette partie du texte que je sens de lire, ce n'est plus le jour de l'Éternel, mais c'est le reste de mon peuple. C'est le reste de mon peuple. Dieu ne parle pas de la même façon quand il juge Ninive ou quand il juge Jérusalem. Quand il juge les nations environnantes, les nations lointaines, et ou quand il parle de la nation Juda. Dieu ne parle pas du même langage, il ne parle pas de la même façon. Parce que dans le cœur de Dieu, évidemment, le peuple de Juda va connaître un sort funeste. Mais il ne sera pas, tout le peuple ne sera pas détruit. Il y aura tous ceux qui auront humblement accepté de reconnaître qu'ils sont pécheurs. Tous ceux qui vont renoncer à l'idolâtrie, tous ceux qui vont renoncer à l'adultère, qui vont confesser leurs péchés, qui vont retourner vers Dieu, ceux-là seront épargnés. Ce jugement donc est particulier par sa tonalité. Dieu ne parle pas de la même façon. Il reste un Dieu juste qui ne peut pas laisser le mal passer. Même quand cela est fait par son peuple, il est saint. Il a horreur du péché. Voyez, ce qui me frappe, c'est que nous sommes dans l'Ancien Testament. Et pourtant, on se rapproche très fort avec ce texte. On se rapproche très fort des accents qui sont dans le Nouveau Testament. Voyez, il y a cette notion que le salut est individuel. C'est chacun qui doit être conscient de ses responsabilités. Le péché est collectif. Nous sommes tous pécheurs. Ici, Juda est entièrement pécheur. Tous les habitants de Juda sont condamnés par Dieu. Cependant, Dieu tend la main à ceux parmi eux, que ce soit des riches, que ce soit des pauvres, que ce soit les grands, que ce soit les petits, Dieu tend la main à tous ceux qui se repentent, à tous ceux qui renoncent à l'idolâtrie, à tous ceux qui renoncent à l'adultère, à tous ceux qui viennent à lui. Dieu tend la main. Vous voyez, on est dans les accents du Nouveau Testament. Le salut individuel et la grâce en Jésus-Christ. La sanction tombera. Je vous ai dit, Jérusalem sera attaquée et détruite. Mais ceux qui vont vouloir s'attacher à Dieu seront épargnés. Alors, à quoi est-ce que ce texte nous renvoie aujourd'hui? Si nous y pensons aujourd'hui, je vais terminer par là, à quoi ce texte nous renvoie? D'abord, ce texte nous parle d'un Dieu qui est au contrôle de l'histoire, qui accomplit les choses comme il a prévu. Dieu domine l'histoire. C'est Dieu qui bouge les royaumes. C'est Dieu qui permet que certains royaumes attaquent Israël. C'est Dieu qui permet que certains royaumes se développent. Dieu est au contrôle de l'histoire. Dieu fait les choses comme il a prévu. Il n'est pas en retard avec son calendrier. Il est toujours dans le temps. Peut-être que ça devrait nous faire réfléchir dans notre démarche avec Dieu. Si je sais que Dieu contrôle les événements, le cours de l'histoire, est-ce que ne peut-il pas contrôler les événements de ma vie? Peut-il pas contrôler le cours de mon histoire? Ne peut-il pas être là pour aussi voir de loin qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce qui est pour moi? Alors dans nos prières, ne pouvons-nous pas oser dire, Seigneur, je te demande pas seulement un mari, je demande aussi des enfants, je demande aussi, est-ce que je peux pas voir plus loin aussi en demandant à Dieu? Je peux, parce que Dieu contrôle toutes choses. Il est au contrôle de l'histoire de ma vie. Deuxième chose, nous voyons le visage d'un Dieu protecteur. Un Dieu protecteur de son peuple. Un Dieu donc d'amour. Il est intraitable avec le péché, mais il est protecteur. Il ne veut pas qu'un autre nous mette le doigt sur notre œil. Vous connaissez ce texte-là, dans Ésaïe, celui qui te touche, touche à la prunelle de mes yeux. Il ne veut pas que quelqu'un d'autre s'occupe de nous, encore moins Satan, encore moins le diable. N'est-ce pas quelque chose de rassurant pour nous ce matin de se dire, nous avons un Dieu qui nous protège. Nous ne savons pas toujours qui sont nos adversaires. Nous ne savons pas toujours quels sont nos combats. Peut-être parfois nous les voyons, parfois nous ne les voyons pas. Mais nous pouvons être sûrs d'une chose. Pour les combats que nous voyons, pour les risques, les dangers que nous voyons, et pour ceux que nous ne voyons pas, nous avons un Dieu qui est prêt, qui est là pour nous protéger. Et il le fait par amour, par un geste d'amour. Dernière chose que je voulais mettre en avant, c'est un Dieu personnel. Derrière, et nous allons le voir à travers la troisième partie, derrière les accents d'un Dieu qui parle à un peuple, à des nations, il y a un Dieu qui cherche une relation individuelle avec chacun. C'est pour ça que vous remarquerez qu'il parle souvent en disant « tu », en parlant d'une nation comme c'était une personne. Parce que son rapport est dans la relation personnelle. C'est un Dieu de l'ensemble, de tout le peuple, mais c'est un Dieu de chaque membre du peuple, individuellement. Et derrière ça, il y a déjà cette notion de la grâce. Un Dieu qui ne veut pas le malheur de l'homme, mais qui veut le salut de l'homme. Un Dieu qui ne veut pas que l'homme soit perdu, et pourtant un Dieu saint. Mes amis, je vais terminer par ça. Nous avons un Dieu qui veut une relation personnelle avec nous, mais nous avons un Dieu qui est juste, qui est saint. Peut-être que c'est là une dimension que nous devons apprendre à découvrir. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est vrai avec moi. Mon Dieu m'aime. Mon Dieu me comble. Mais mon Dieu ne me laissera pas pécher comme je veux. Mon Dieu ne me laissera pas vivre n'importe quelle vie que je veux. Mon Dieu ne me laissera pas me fourvoyer dans les péchés. Et si je pêche, mon Dieu me punira. Mon Dieu me châtiera. Exactement comme un père, une mère qui punit les bêtises de son enfant. Ce n'est pas pour ça qu'il ne l'aime pas, mais il va le punir jusqu'à ce que l'enfant va apprendre à renoncer à ses bêtises. Notre Dieu ne laisse pas le péché. La sainteté convient à sa maison. Réfléchissons à ça aussi. Vous savez, la raison majeure de ces jugements, c'est à cause de la sainteté. Il condamne ce peuple-là parce que c'est un peuple qui n'est pas saint, c'est-à-dire qui n'est pas mis à part pour lui, qui ne s'est pas mis de son côté à lui pour vivre ce que lui veut. Alors peut-être ce matin, soyons dans l'adoration, dans la louange, dans la reconnaissance, parce que nous avons déjà, nous, ces choses, ces gens ont n'avait qu'une partie de la réalité. Nous avons toute la réalité, nous savons que Christ est venu pour accomplir les desseins de Dieu. Il est mort à la croix et nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes au bénéfice de sa grâce. Et donc, puisque nous sommes tant que ça privilégiés,
Nous savons que nous avons un Dieu qui est bon avec nous, mais aussi qui est quand même exigeant, parce qu'il veut que nous soyons saints, puisque lui, il est saint. Mieux, il nous donne les moyens de pouvoir nous laisser transformer pour le ressembler de plus en plus. Ce n'est même pas des efforts qu'on doit faire par nous-mêmes. On est rien du tout. Si j'essaie de faire des efforts pour être un type correct, je suis sûr et certain que je vais échouer. D'ailleurs, Dieu merci, j'ai essayé ça quand j'étais gamin. J'ai déjà bien compris depuis longtemps qu'en moi ne se trouve rien de bien. Mais je sais une chose. Si je laisse Dieu me transformer, si je laisse le Saint-Esprit agir dans ma vie, dans mon cœur, alors je peux être transformé véritablement. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu peux permettre comme connexion. Merci pour l'impact de ta parole dans nos vies. Je te laisse, Seigneur, le travail dans chaque cœur. Au nom de Jésus. Amen.